بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعهم أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه، كما عرف الله ودعا به وكما عرف الله ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نستأنف درسنا الذي وقع أمس في تفسير سورة الشمس. Reprenons l'étude du sens des versets de Sourate Ash-Shams qu'on a commencé ensemble hier. Et on s'est donc arrêté au verset où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Dans ce verset dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala jure sur l'âme et celui qui l'a parfait, qui l'a parfaitement créé. On a expliqué que l'âme était donc une créature qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créée, et que lorsqu'elle est liée au corps, on l'appelle nafs. Et que lorsqu'elle se sépare du corps, on l'appelle ruh. Et donc, ruh, cette créature particulière, dont les Juifs ont demandé précision concernant sa matière, concernant sa couleur, concernant son poids, concernant de nombreux points la concernant, et Allah Azza wa Jalla a révélé: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et il t'interroge sur l'âme, dit: l'âme fait partie des affaires de mon Seigneur et on ne vous a donné de la science que très peu. Ça c'est selon la parole des Mufassirin qui voit que الروح dans ce verset concerne l'âme, même si personnellement ce n'est pas l'avis que j'ai choisi. Mais on en reparlera plus tard inshallah. On a donc évoqué que dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala décrit l'âme de trois façons. On a dit: an-nafsu al-ammaratu bis-su, l'âme qui ordonne le mal; an-nafsu al-lawwamah, l'âme plaintive; et an-nafsu al-mutma'innah, l'âme apaisée, sereine et tranquille. Les savants ont divergé concernant cette classification. Est-ce que l'être humain aura forcément une de ces trois-là, ou est-ce que ces trois éléments sont des états que l'âme peut avoir? Je répète, est-ce que ce sont trois âmes différentes, ou bien est-ce que c'est trois états qui peuvent appartenir à la même âme? والصحيح والله أعلم بالصواب الثاني. Et l'avis le plus juste, et Allah sait mieux, c'est le second. C'est que ces trois états-là sont des vêtements que l'âme va revêtir. Comme certains prédécesseurs disaient, une âme peut avoir ces trois états dans une heure. En une heure, elle peut ordonner le mal, elle peut se plaindre du mal qu'elle a accompli ou du bien qu'elle a délaissé, et elle peut être apaisée à l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها, traduisons ça en français par inspirer. Il lui a inspiré فجورها وتقواها. الفجور في اللغة معناه الخروج, معناه الخروج. الخروج من ماذا؟ الخروج من طاعة الله. Le mot fujour en arabe désigne la sortie. La sortie de quoi? La sortie de l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. On dira en arabe in fajara, pour désigner ce qui jaillit, ce qui sort fortement. Donc tous les mots dont vous trouverez comme lettre originelle le fa, le jim et le ra indiquent le principe de sortie, ce qui sort. Et fujour et le mot fusouq veulent dire la même chose. Tout ce qui sort, al-fajir ou al-fasiq, sont ceux qui sortent de l'obéissance d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Donc, fa'alhamaha fujuraha. Donc, on a tendance à traduire ce mot-là en français par perversion. Même si j'ai déjà cité que je n'aimais pas trop cette traduction. Al-fujur, c'est le mal. C'est cet état maléfique qui pousse l'âme à sortir de l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme al-fusuq. Donc Allah azza wa jal, il a inspiré à l'âme fujuraha, donc cet état maléfique, wa taqwaha, et sa piété. Taqwa, comme on l'a déjà évoqué de nombreuses fois, ismu masdar. Nalfi'li ittaqa. والاتقاء هو أخذ الوقاية. Donc le mot taqwa est un terme qui désigne l'action de se protéger. Se protéger de quoi? Du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comment? En accomplissant ce qu'il nous ordonne de faire et en délaissant ce qu'il nous interdit de faire. Et là il y a un problème lourawi. Il y a un problème linguistique dans ce verset. Quand je dis problème, bien entendu, c'est un problème pour ceux qui ne comprennent pas les règles de l'arabe. Il n'y a aucunement dans les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala un problème. D'accord? Al-ilham fil lughati al-arabiyyati la yakunu illa fil khayri ghaliba. Al-ilham fil lughati al-arabiyyati la yakunu illa fil khayri ghaliba. Fa kayfa yulhimu Allah tabaraka wa ta'ala lin nafsi fujuraha. Al-ilham, donc cette inspiration divine, yani de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, en arabe ce terme n'indique que quelque chose de bien, que quelque chose de bon. Donc comment est-ce qu'Allah azza wa jal, il va inspirer à l'âme quelque chose de mauvais? Fujuraha. Comment comprendre ce verset? Comme il a dit Ibn Abbas radiyallahu anhuma fi tafsiri hadhihi al-ayah, فألهمها فجورها وتقواها أي بين لها الخير والشر. بين لها الخير والشر, يعني il lui a montré le bien et le mal. ونظير هذا قوله تعالى وهديناه النجدين وقوله تعالى في سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Donc Ibn Abbas رضي الله عنهما explique ce verset en disant qu'il signifie qu'Allah عز وجل lui a montré le bien et le mal. Il a inspiré à l'âme le bien et le mal, c'est-à-dire qu'il lui a montré la voie du bien et la voie du mal. Il lui a montré la voie du bien pour qu'il sache la suivre, et il lui a montré la voie du mal pour qu'il s'en écarte. Et équivalent, de façon équivalente à ce verset dans le Coran, le verset où Allah Ta'ala il dit dans Surat al-Balad, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, et on l'a guidé vers les deux voies. Même si ce verset aussi est sujet à divergence chez les savants, et la vue le plus sûr n'est pas celui-là de, selon moi. Bien sûr, selon moi, après étude des paroles chez les Mufassirs. Mais on y reviendra après. On reviendra après sur beaucoup de choses. Al-Muhim. Ça m'a du suspense, comme ça vous reviendrez la prochaine fois, Inch'Allah. Al-Muhim, l'autre verset, Allah Ta'ala dit, Inna hadaynahu s-sabil. Nous l'avons guidé vers le chemin. Qui, yani Allah Azza wa Jal, a guidé l'être humain vers le chemin? Imma shakira, soit il sera reconnaissant, ou imma kafura, soit il sera ingrat ou mécréant. Donc, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Il lui a inspiré cet état maléfique comme il lui a inspiré sa piété. C'est-à-dire qu'il lui a montré la voie du mal et la voie du bien. La voie du mal afin qu'il sache où elle se trouve et qu'il soit capable de s'en écarter, et la voie du bien pour qu'il sache aussi où elle se trouve et qu'il l'emprunte.
نلاحظ في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى قدم الفجور على التقوى.
On remarque dans ce verset qu'Allah تبارك وتعالى a mis en avant الفجور, cet état maléfique, sur التقوى, sur la piété. Et qu'est-ce que nous on doit tirer comme conclusion dans ce taqdim, dans le fait d'avoir mis en avant الفجور. On comprend cette règle très importante que les savants ont longuement insisté à nous expliquer et à nous rappeler, c'est-à-dire at-takhliya qabla at-tahliya. At-takhliya, c'est-à-dire le fait de se dénuer, de s'enlever, de se débarrasser avant de s'orner. Avant de revêtir. Tahalla, ça veut dire laisser, délaisser, abandonner. Wa tahalla, ça veut dire s'orner, se vêtir avec al-huli, yani les parures, des vêtements beaux. Quand tu vas acheter un nouveau vêtement, propre, beau, tu n'as pas le porter sans enlever au préalable les vêtements que tu portais avant, qui ont été salis par différentes choses, ne serait-ce que par sa sueur. Fakadalik, l'âme, pour être pure, ne doit pas se contenter de faire les choses qui lui sont demandées d'être faites, mais elle doit en premier lieu se débarrasser de tout ce qu'elle a de mauvais. Regardez le verset qui vient après. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زكاها وقد خاب من دساها. Et ça c'est جواب القسم. إيش معنى جواب القسم كما قلنا البارحة؟ C'est quoi جواب القسم؟ C'est la réponse du serment. Donc là Allah عز وجل il a juré sur plusieurs choses. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. Sur huit éléments. Et on remarque dans ces huit éléments, les sept premiers, غير مكلفة. Les sept premières créatures sur lesquelles Allah تبارك وتعالى il jure, ne sont pas responsables. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas imposé d'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala en échange d'une récompense et de risquer un châtiment en délaissant son obéissance. Cette responsabilité qu'a endossé l'être humain et le djinn. Pourquoi? À cause de l'ignorance et de l'injustice. Inna aradna al-amanata ala al-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zalouman jahula. Nous avons exposé le dépôt, yani la foi, aux cieux, à la terre et aux montagnes. Elles refusèrent de la porter et en eurent peur. Qui l'a porté, l'être humain? Pourquoi? Il était injuste et ignorant. C'est pour ça qu'on est mukallaf. On nous a chargé d'un poids. Quel est-il de porter ce dépôt? Quel est-il, c'est-à-dire la foi? Donc, الشمس والقمر والسماء والأرض والليل والنهار كل هذه المخلوقات غير مكلفة. Le soleil, la lune, la terre, le ciel, la nuit et le jour sont des créatures qui ne sont pas chargées de cette responsabilité. Et on a dit hier que comme ces événements arrivent tous les jours et que dans la loi humaine logique, c'est-à-dire d'une logique saine et pure, il ne peut pas y avoir d'événement sans qu'il y ait quelqu'un pour le réaliser. La buddha lil hadith min muhdith. Il faut absolument pour qu'un événement se produise que quelqu'un soit là pour le produire. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a évoqué chacun de ces points sans y ajouter sa participation, car c'est ma'loumun bidharura. C'est connu obligatoirement et essentiellement. L'âme, c'est cette créature qui elle est mukallafa. C'est pour ça qu'il a précisé, et c'est dans sa complexité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a précisé qu'il en est le créateur. Et qu'il l'a créé de façon parfaite. Et ensuite, il nous explique de quoi il s'agit. C'est-à-dire l'âme. Comment est-ce qu'elle fonctionne, comment elle va. On a dit qu'il lui inspire le chemin du, il lui montre le chemin du bien et le chemin du mal. Et après, on a Jawabul Qasam, donc la réponse à tous ces serments consécutifs, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Certes, a gagné celui qui la purifie. Et certes, est avili et a perdu celui qui la cache. On va voir que dassa, c'est ma'na akhfa. Dassa veut dire caché, dissimulé. On va expliquer pourquoi tout de suite. وقد خاب من دساها. Donc on revient à فألهمها فجورها وتقواها. Donc Allah commence par le fujour et ensuite التقوى. Et le verset suivant, il parle de la cause qui va t'amener à la taqwa. قد أفلح من زكاها والزكاة والتزكية في اللغة معناه النمو. At-tazkiyatu, on traduit ça en français par la purification. Son sens originel en arabe vient du verbe zakka, qui veut dire nama, c'est-à-dire croître. Croître, grandir. Nama. Et Allah dit qad aflaha man zakkaha. Certes, aura gagné celui qui l'a purifié, qui l'a fait croître dans la purification. On comprend que pour atteindre la piété, il faut purifier son âme. Et c'est donc en comprenant... Je peux avoir un jardin ? Moi j'ai dit caca tout à l'heure, ça me pique. Donc on comprend... J'ai mis de la glace, mais il n'y en avait pas. On comprend donc, je reprends. Allah il a mis al-fujur avant al-taqwa. Et après il a parlé de la cause qui te fait atteindre la taqwa. Quelle est-elle? Le fait de purifier son âme. C'est en purifiant son âme qu'on atteint la taqwa. Et c'est en comprenant cela qu'on comprend pourquoi Allah il a parlé de al-fujur avant al-taqwa. Pour qu'on se débarrasse de al-fujur, pour pouvoir atteindre la taqwa. Qu'on se débarrasse de ce qui est mauvais en nous, pour pouvoir s'orner des actions qui nous feront atteindre la piété. Et c'est ce qu'on appelle at-takhliya thumma at-tahliya. Se débarrasser de ce qui est mauvais pour s'orner de ce qui est bon. C'est comme toi quand tu fais du sport, mathalan, ou bien tu fais une action qui nécessite des grands efforts, donc qui vont amener à la salissure de tes vêtements, ou bien à porter une odeur nauséabonde. Tu ne vas pas aller porter des vêtements propres et neufs sans te dévêtir et te débarrasser de ces vêtements qui, eux, ne le sont plus. Alors c'est pareil. Et regardez la première des choses. Et la plus importante et la plus essentielle et la plus grave que l'être humain doit se débarrasser, c'est le shirk. C'est le shirk. Regardez sur le Baqarah, Allah Ta'ala il dit لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. Celui qui mécroit dans le tarout, qui renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala et croit en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme quand tu dis la ilaha illallah, c'est mabni laha arkanan ou laha ruknani afwan al-nafi wal-isbat wal-nafi muqaddam ala al-isbat. Deux piliers dans la ilaha illallah, la négation et l'affirmation, et la négation vient avant l'affirmation dans cette phrase. Tu dois nier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc l'essence même de ce principe qui est tahliya summa tahliya, le fait de se débarrasser pour ensuite prendre, c'est se débarrasser du shirk. Et c'est seulement là que ton tawhid sera kamil. Et pareil pour le reste des actions. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَّاهَا. Et là, il y a un khilaf chez les mufassirines. Qu'est-ce qu'il y a comme khilaf chez les mufassirines? Mais étudier la divergence et les causes qui amènent les savants à diverger nous élargissent la poitrine. Et nous apprennent et nous enseignent que la divergence ne signifie pas division. Mais comprenez bien mes paroles. On fait référence à la divergence qui est bâtie sur des terres claires, sur des textes clairs, sur des textes clairs et acceptables et considérés chez les savants de la sunna. Maintenant, ceux qui disent on diverge et c'est pas grave, on est tous des frères, et lui il croit que Ali c'est un dieu, et l'autre il croit que Abu Bakr et Omar c'est des koufars. Non. Ça c'est une divergence rejetée le plus loin possible. Il n'y a pas de « c'est pas grave ». Il n'y a pas de « non, on n'est pas d'accord, mais écoutez, il faut pas se diviser, chef. » C'est vous qui divisez, c'est pas nous. Nous, on suit ce qu'on nous a demandé de suivre. « Al-Kitab wa-Sunna, ala fahmi salafil umma » Le livre de Allah Ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des prédécesseurs qui sont les meilleures générations et les générations de cette communauté. Alors, eux, ils viennent après. Ils inventent tout et n'importe quoi, et sous prétexte qu'on n'est pas d'accord avec eux parce qu'il n'y a aucun dalil sur leur prétention, ils nous accusent de diviser la umma. Wallahi ajaban hada. Walakin yakfina qawlu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu حيث قال al-jama'atu man wafaqa al-haqq wa in kana wahdah. Mais nous, ça nous suffit la parole de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui disait al-jama'a. Cette jama'a à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait référence dans le hadith des 73 sectes, et dont tous iront en enfer sauf une, il a dit que c'était le jama'a. Il a expliqué que le jama'a c'est celui qui est en conformité avec la vérité, même s'il est tout seul. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il rapporte dans I'lam al-Muwaqqi'in, il explique, il raconte l'histoire de la grande épreuve qu'a connu l'imam Ahmed rahimahullah. Lorsque al-Ma'moun, ce calife, a imposé cette idéologie comme quoi le Coran n'était pas la parole d'Allah mais c'était sa créature, et il a imposé donc aux savants et jurisconsultes de l'époque de suivre cet avis, sinon ils seraient châtiés. L'imam Ahmad rahimahullah a été l'un des seuls à tenir sur la vérité à un moment où la majorité des gens se sont rangés du côté du faux, soit directement ou soit en usant de subterfuges pour éviter le châtiment promis à celui qui n'est pas d'accord avec le calife. Alors est-ce qu'on va dire que l'imam Ahmed il avait tort parce qu'il était tout seul? Abadan. Et l'imam Ahmed rahimahullah à ce moment-là, c'était lui la jama'a, ainsi que ceux bien entendu qui l'ont suivi et qui ont patienté face à cette énorme épreuve. Donc al-jama'a, c'est celui qui est en conformité avec la vérité, même s'il est tout seul. Et comme il disait Az-Zuhri rahimahullah, Iyaka wa ara al-rijal wa in zakhrafuhu laka bil-qawl wa alayka bil-athar wa in rafadaka al-nas. Il disait rahimahullah, prends garde aux avis des hommes, même s'ils l'embellissent avec leurs paroles, et sois accroché. Tu te dois de suivre les textes, même si les gens te rejettent. C'est pas grave. C'est vous qui aurez créé la division. Ce ne sera pas celui qui suit le Coran et la Sunna. Abad. Donc, je reviens à ce que je vous disais dans la divergence. Quand on regarde chez les salafs, les savants des plus prédécesseurs, parmi les compagnons, comme Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, et les autres, leurs élèves, comme Mujahid, Al-Aswad, Muqatil et les autres, et ceux qui sont venus après comme Qatada et ainsi de suite. Les savants du tafsir des trois premières générations. Et on trouve des fois plusieurs paroles différence concernant le même verset. Mais dites-vous que chacun d'entre eux a fait soit un effort de réflexion concernant le sens du verset, ou soit il s'est appuyé sur un autre élément qui avait un lien proche ou lointain avec le verset en question. Donc ça nous apprend à avoir une poitrine élargie à la bonne divergence, cette divergence qui est bâtie sur des textes, pas celle qui ne vaut rien et qui doit être rejetée et éloignée le plus loin possible. Donc on revient à ce verset. « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا » On a dit « لِلْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَوْلَانِ » Les savants ont deux paroles concernant le sens de ce verset. C'est-à-dire, la thèse qu'il y a, la purification de l'âme, dans le verset, de qui elle doit venir? De l'âme en elle-même ou d'Allah tabaraka wa ta'ala? Est-ce que c'est Allah azza wa jal qui va purifier l'âme? Ou bien est-ce que c'est l'âme elle-même qui va se purifier? بِكُلِّنْ قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ وَلَهُمْ فِي هَذَا أَدِلَّ كَثِيرًا. Première parole, c'est que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui purifie l'âme. Encore Allah ta'ala, il dit فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Ne purifiez pas vos âmes, car il connaît mieux celui qui craint. Dans notre verset, Allah ta'ala, il dit وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ. Mais Allah, il purifie qui il veut. Et même Hattas, si on revient un peu plus loin, un peu plus avant dans le verset, ce verset dans Surat An-Nur, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ. Et si ce n'était la grâce d'Allah et sa miséricorde, il n'aurait purifié personne parmi vous. Jamais. Mais Allah purifie qui il veut. Donc, en fonction de ces versets et d'autres hadiths, comme ce hadith rapporté par l'imam Ahmad d'après Aïcha radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une nuit qu'elle dormait, elle s'est réveillée, elle a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de prier, et il a dit, Allahumma aati nafsi taqwaha, wa zakkiha anta khayru man zakkaha, anta waliyuha wa mawlaha. Il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il invoquait Allah azza wa jalla, il lui disait, Ya Allah, donne à mon âme sa piété. Et purifie-la, tu es le meilleur de ceux qui la purifient. Tu es son propriétaire et son protecteur, de l'âme. Donc on comprend du hadith aussi que c'est Allah Azza wa Jalla qui purifie le verset, l'âme, pardon. La deuxième parole, c'est que c'est l'âme qui se purifie, qui doit chercher à se purifier. À savoir que le fait de dire cela n'annule pas la première parole. C'est pour ça que la seconde parole est plus, entre guillemets, cohérente. Comprenez-moi jusqu'au bout, c'est parce qu'elle implique le sens de la première. C'est que même si l'âme doit faire ce qu'elle peut pour atteindre la purification, elle n'y arrivera jamais si Allah Ta'ala ne la purifie pas auparavant. Cependant, si on prend la première parole, c'est Allah Subhanahu qui purifie l'âme sans que l'âme n'ait quelque chose à faire pour y parvenir. Donc dans la seconde parole, les savants ont dit, l'âme doit faire les actes pour atteindre cette purification. Bien entendu, avec au préalable, la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de la victoire et du gain que le croyant aura le jour du jugement, il le lie toujours aux actions. Allah dit, « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ » Certes, a gagné, les croyants ont gagné. Et après, il lit cette victoire à des actions. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الآيات. Allah subhanahu wa ta'ala cite un certain nombre d'actions. Regarde dans Surat al-Baqarah, les premiers versets de la Surah. Hein? ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
الإيمان بالغيب لا foi dans l'invisible. Ils accomplissent la prière et ils dépensent de ce qu'on leur donne.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
Ceux qui croient en ce qui a été descendu vers toi, la révélation, ainsi que celle qui a été descendue avant toi, et qui sont sûrs de l'avènement du jour dernier.
Allah dit, أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
Voici ceux qui sont sur une guidée de ton Seigneur, et voici les gagnants.
Et Allah, tabaraka wa ta'ala, il dit, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى.
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى.
Dans surat, يعني الليلة والأعلى.
Certes, a gagné celui qui s'est purifié.
Donc quand on peut choisir dans la divergence existante chez les savants une parole qui réunit toutes les paroles, فَهِيَ مُقَدَّمَ عَلَىٰ غَيْرِهَا.
Elle est donc mise en avant en priorité sur les autres.
Et cette parole-là, comme on l'a dit, réunit les deux.
Alors que la première exclut la seconde.
Donc la seconde parole chez les savants, comme quoi c'est l'âme qui doit agir et accomplir des actions pour être purifiée, mais toujours avec la permission d'Allah Azza wa Jal. Et c'est lui qui accorde la purification à qui il veut.
Donc la seconde parole englobe la première. Alors que si on prend la première, elle exclut la seconde.
Donc elle est préférable en termes de choix dans cette divergence.
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا.
Certes a gagné celui qui l'a purifié.
Celui dont Allah a purifié l'âme en lui permettant d'accomplir les actions qui le feront parvenir à cet objectif.
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.
Et certes a perdu celui qui l'a caché.
دَسَّا معناه لغة الخفاء.
Ou akhfa, le fait de cacher, le fait de dissimuler.
Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec cacher son âme?
Comme on l'a déjà dit plusieurs fois et on le répète sans se lasser, le Coran a été révélé en arabe.
Et pas seulement en arabe, mais aussi en conformité avec les styles donc linguistiques des Arabes de l'époque de la révélation du Coran, ainsi que certaines de leurs habitudes, certaines de leurs traditions qu'ils avaient l'habitude d'exercer ou bien d'exécuter.
Lorsque tu es en voyage, avant chez les Arabes, tu arrivais dans une ville et tu trouvais que les gens s'installaient dans certains degrés de la ville en fonction de leur générosité et hospitalité. Les généreux et ceux qui offraient l'hospitalité avaient tendance à installer leur maison en hauteur. Et la nuit arrivée, ils allumaient un feu qu'on pouvait voir de l'extérieur. Comme ça, le voyageur pouvait voir cette maison en hauteur, car elle était donc visible, et en voyant le feu allumé, savait qu'il trouverait quelqu'un là-bas qui lui offrirait l'hospitalité. Ça, c'était le kiram. Les gens hospitaliers. Et les Arabes étaient connus pour leur hospitalité sans pareil. C'est pas comme aujourd'hui. Attends de rigoler, j'ai pas fini. C'est pas comme aujourd'hui. Tu vas dans un pays arabe et tu vois les gens. Ah, mashallah, kif halek, ça dit tfadal, tfadal. Et toi, tu dis une skin, je vais pas le gêner. Je dis non, je suis occupé, je vais partir.
Moi, ça m'est déjà arrivé. Notamment quand tu vas dans des pays, tu connais pas les us et coutumes, tu te fais avoir.
Alors j'étais dans un pays, pour pas dire que c'était quel pays, au marché, je rencontre un frère un poissonnier, ça m'a comme qu'il halak bikhair, on se connaissait, on avait fait connaissance. Akhi tfadal ma'ana lil bayt, tfadal. La akhi barakallahu fik, wallah ana mashghoul wa 'andi ashghal wa kada. La la wallah tfadal, il insiste. Alors moi j'étais gêné, je pouvais, ça se fait pas, il me dit toujours tfadal, je vais le dire oui un jour. J'ai dit bon, taïb, vas-y, je vais venir avec toi. Mais là il a changé.
Il a dit, l'autre, j'arrive. Alors, il commence à marcher, et il regarde par terre comme ça, il bouge même pas les mains quand tu marches, tu vois. Alors, je marche avec lui, à un moment, il s'arrête, il fait, non, pas maintenant, j'ai un truc à faire, Inch'Allah, plus tard. Ah, vous avez compris. C'est un faux tfaddal. C'est pas un vrai tfaddal. Et c'est pour ça aussi, quand tu veux payer, tu fais tes courses. J'avais acheté des légumes et tout ça. J'arrive, je fais, c'est combien? Il me fait khalik. Khalik, ya hach, khalik. Non, j'insiste, je veux payer. Khalik. Bon, bah, attends. Après, je pars. T'attends 2-3 secondes et t'entends quelqu'un crier, eh, hach! Tu comprends pas? Khalik, c'est politique. C'est pas pour de vrai. D'accord. Je m'en rappellerai, le mouhine. Les Arabes d'avant, c'était pas pour de faux. C'était pour de vrai. Imagine-toi, les gens, des fois, ils habitaient tout seuls dans le désert. Tout seuls. Quelqu'un, il vient, il frappe à ta porte. Il te dit, je suis voyageur. J'ai nulle part où passer la nuit. Tu l'as jamais vu de ta vie. Tu sais pas d'où il vient. Tu sais pas c'est qui. Eh ben, les Arabes, ils réfléchissaient pas. Ils lui ouvraient la porte, ils faisaient de fardal. Et ils lui donnaient à manger. Et ils s'occupaient de lui. C'était comme ça, c'était commun et connu. Hatta, des Arabes de l'époque étaient connus pour ça. Il y en avait un qui s'appelle Hatim al-Tayyi qui refusait de manger s'il était tout seul. Sa femme, elle lui ramenait le plat et il n'y avait personne avec lui. Elle dit, oh là, je ne mangerai pas s'il n'y a personne avec moi. Et il sortait chercher un pauvre ou quelqu'un qui n'a rien à manger pour le ramener avec lui, pour qu'il mange avec lui. Al-Muhim, les kiram, ils s'installaient en hauteur. Et ils allumaient un feu que vous pouvez voir de loin. Ma'na, marhaban. Son sens, bienvenue. Les autres, al-li'am, eux, ils s'installaient, c'est pas au rez-de-chaussée, c'est au sous-sol. Dans des endroits cachés. Notamment devant des arbres, ou bien des buissons, ou bien des rochers, pour pas qu'on les voie. Pour pas qu'on les voit. Pourquoi? Pour pas qu'on vienne frapper à leur porte. Pourquoi? Pour pas qu'on vienne picorer dans leur assiette. Et là, Allah subhanahu, il a employé des mots dans ces deux versets qui représentent cette chose. On a dit, zakkaha, la purifier, c'est comme ça qu'on traduit en français. Dans l'arabe, ça veut dire croître. D'accord? La faire grandir. Dans le bien, bien sûr. Et d'être ça, ça veut dire cacher. Et regarde, quand le croyant, il accomplit une bonne action, il n'est pas gêné en l'accomplissant. Est-ce que, billahi alayk, toi qui as déjà été à la Mecque, et qui as déjà porté l'ihram, tu as déjà eu honte, ou tu as déjà ressenti de la gêne, à porter l'ihram devant les autres à la Mecque? Abadan, jamais. Au contraire, tu es heureux, tu penses à rien. Ton seul souci, c'est quand est-ce que tes yeux vont être embellis par la vision de la Kaaba. Et lorsque les gens te voient, ils invoquent Allah pour que tu fasses ton adoration de la meilleure façon et ils te demandent d'invoquer Allah pour eux, pour qu'il leur pardonne, leur fasse miséricorde. Tu es fier. Tu n'as aucune gêne. Et regarde, celui qui fait une mauvaise action, celui qui est péché, celui qui fait un péché, comment il se cache et comment il refuse qu'on le voit. Regarde, ces gens de certains pays qui n'ont aucun scrupule à dépenser des sommes faramineuses afin d'effectuer de longs trajets pour se retrouver dans un pays où personne ne les connaît pour pouvoir revêtir de nouveaux vêtements et désobéir à Allah. ولكن الله يأبى إلا أن يذل من عصى. Mais Allah Azza wa Jal refuse d'honorer celui qui lui désobéit. Ça veut dire quoi? Qu'il va l'humilier. Il va le déshonorer. Et tu verras, cette personne-là, quand elle fera ce péché, qu'elle fera tout son possible pour que personne ne la voie, déjà en premier, il n'est pas bien. Et en deuxième, si quelqu'un l'attrape, S'il pouvait creuser un trou par terre pour s'y cacher, il le ferait. Le prophète dit, alayhi salatu wassalam, al-ithm ma haka fi nafs wa taraddada fi sadr wa karihta an yattali'a alayhi nas. Al-ithm, c'est ce qui gratte dans l'âme. Et c'est ce qui gêne dans la poitrine. Et c'est ce que tu détesterais que les gens voient de toi. C'est ça l'ithm. C'est pour ça qu'Allah il a employé le mot datta, qui veut dire caché. Comme cet homme qui cache sa maison pour que les voyageurs, quand ils passent, ne la voient pas. Comme ça, ils ne l'importuneront pas en demandant l'hospitalité. Cette âme qui se cache pour désobéir à Allah Azza wa Jal, certes, n'a fait que mettre un pied dans le chemin qui l'amènera à sa perte. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Et on n'oublie pas que cette sourate est makkiya. D'accord ? Donc elle s'adresse aux croyants. Elle s'adresse aussi aux mécréants. Qui sont les mécréants ? Quraysh. Et tous ceux, bien sûr, qui rentrent dedans après. Mais au départ, c'est Quraysh qui est visé. Quraysh sont des Arabes de la péninsule arabique. Et juste après, donc ces versets qu'on vient de voir, Allah Azza wa Jal nous parle de Thamoud. Thamoud, qui est une tribu arabe, qui a vécu, du moins dont l'endroit où ils habitaient se trouve dans le nord de la péninsule arabique. Ce qu'on appelle Al-Hijr. Il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle Al-Hijr. C'est comme ça qu'on appelle cet endroit. Diyar Thamoud. Cet endroit-là existe toujours jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il se trouve dans le nord, proche de la région du Sham. Le Quraysh, il connaissait Thamoud. Comme il connaissait Ad, qui est aussi une tribu des Arabes. Alors Allah Azza wa Jal, après qu'il ait dit que l'âme qui va cacher, du moins que l'âme qui va se cacher pour accomplir le mal va courir à sa perte, il donne un exemple à celui qui se trouve dans cette catégorie-là pour qu'il voie ce qu'il attend. Et Allah Azza wa Jal, comme il s'adresse à Quraysh, il leur a donné un exemple avec une chose qu'ils connaissent, c'est-à-dire Thamoud. Et ça, c'est une hikmah, c'est une sagesse que le prédicateur doit avoir. C'est s'adresser aux personnes, déjà en leur donnant des exemples, parce que ça approfondit et précise le sens voulu, et il doit leur donner des exemples qu'ils connaissent, qui sont pour eux visibles, et ne pas leur donner des exemples qu'ils n'arriveront pas à comprendre. Parce que l'exemple, il a pour but de te faire comprendre. Bil mithal tattadihu al-hal. C'est par l'exemple que la situation s'éclaircit. Donc lorsque tu veux expliquer quelque chose à quelqu'un, sois sage. Et fais-lui comprendre cette chose-là en lui donnant des exemples. Comme dans le Coran, Allah Ta'ala dit: Daraba Allahu mathalan. Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan wa yadribu Allahu al-amthal. Et Allah donne des exemples pour que les gens y comprennent. Ibn al-Qayyim rahimahullah dans I'lam al-Muwaqqi'in, il consacre un chapitre complet sur l'explication des amsal dans le Coran. Sur tous les versets où Allah Ta'ala il donne des exemples dans le Coran, eh ben il a consacré un chapitre où il explique ces versets-là. Et j'invite mes frères arabophones ainsi que les sœurs arabophones à se délecter de la lecture de ce chapitre. Car plus on comprend la parole d'Allah Azza wa Jal, et plus la foi augmente, et plus on a envie de satisfaire celui qui a fait descendre ce livre. إذن ولعلنا في لقاء آخر نخصص درسا في تفسير بعض هذه الآيات إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. Et peut-être, inshallah, dans une rencontre prochaine, on essaiera de prendre quelques-uns de ces versets et d'expliquer leur interprétation, si Allah nous écrit la vie supplémentaire et une rencontre prochaine. Donc, on revient à Samoud. Allah Ta'ala, il dit, « Kazzabat Samoud bitagwaha. Kazzabat Samoud bitagwaha. At-Tughyan mujawazatul had. » At-Tughyan, on traduit ça en français par la transgression. C'est le fait de dépasser les limites. C'est le fait de dépasser les limites. Et le ba qui a avant tarwaha, bitarwaha, elle est sababiyya. Elle indique la cause. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Samoud a démenti, donc le prophète qui lui a été envoyé, bitarwaha ay bisababi tughyaniha, à cause de sa rébellion, de sa transgression. Et le fait qu'Allah azza wa jal cite la cause de leur, entre guillemets, démenti, c'est pour nous prévenir qu'ils ne châtient pas ses serviteurs injustement. Mais il y a une cause à l'avènement de son châtiment. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Et Allah Azza wa Jalla, ton Seigneur, ne fait de tort à personne. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا. أريد منكم أن تركزوا معي. Soyez attentifs. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا. ثَمُود a traité de mensonge ou de menteur à cause de sa transgression, de sa rébellion. إِذِنْ بَعَثَ أَشْقَاهَا. إِنْ بَعَثَ, ça veut dire aller de soi-même. Aller de soi-même. Contrairement à ba'asahu, qui veut dire l'envoyer. Envoyer quelqu'un vers quelque chose ou bien vers quelqu'un d'autre. Et in ba'asa, ça veut dire aller de soi-même vers quelqu'un ou quelque chose. Donc, al-inbi'at yufidu ma'nayayn. Al-mutawa'a. والثاني الإسراع. Ça indique deux choses. Premièrement, qu'il est parti de lui-même. On ne l'a pas forcé ni ordonné. Ils se sont réunis entre eux et il y en a un qui a fait une allusion à la chose sans désigner qui allait le faire. Alors lui, il s'est levé et il a décidé de partir. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. إذ انبعث أشقاها, الأشقى اسم تفضيل من شقى يشقى. شقى, le verbe, ce serait un équivalent en français d'être malheureux, de perdre. C'est-à-dire le malheur que l'on ressent suite à un échec. Ou bien la tristesse que l'on ressent suite à un échec. Al-Ashqa, Ashqa al-Qawm, c'est le plus malheureux des gens, le plus triste des gens, ou bien si tu veux, le moins, entre guillemets, le pire des gens. Ça dépend du contexte, si on emploiera ce terme-là, ça voudra dire soit le pire, soit le plus malheureux, soit le plus triste. Et là, c'est le pire. إذ انبعث أشقاها. Donc là, on doit faire un petit retour pour éclaircir l'histoire. Samoud est un peuple à qui Allah a envoyé un messager qui répond au nom de Saleh. Et vous remarquerez que le nom de Saleh n'est pas cité dans cette sourate. Alors qu'Allah y parle de son peuple. Et vous remarquerez aussi qu'Allah ne parle que de Samoud. Ce qui fait de Sourate Ash-Shams une sourate particulière, car elle est la seule sourate du Coran à ne mentionner qu'un seul peuple qui a mécru au messager. Il n'y a pas une sourate dans le Coran comme celle-ci à ce niveau-là. C'est que lorsque les peuples qui ont traité de menteurs, leurs messagers sont cités dans le Coran, ils sont cités. Il y en a beaucoup qui sont cités. Amma Samoud, c'est le seul peuple qui est cité tout seul dans une sourate pour lui tout seul. والعجب في هذا أن نبيهم ورسولهم لم يذكر باسمه. Et ce qui est étonnant, c'est que leur prophète et messager n'a pas été cité par son nom dans cette sourate-là. Regarde dans les sourates du Coran où Allah il parle des peuples qui ont traité et refusé donc de croire en leur messager, et tu ne trouveras pas de peuple en dehors de celui-ci qui est cité tout seul. Regarde dans l'A'raf, regarde dans Hud, regarde dans Ash-Shu'ara, regarde dans As-Saffat, et tu verras qu'Allah y parle de plusieurs peuples sans consacrer une mention particulière à un seul parmi eux, sauf à Thamoud dans cette sourate. Alors là, badahiyan yaqa'u as-su'al fi dhihnik wa ma hu. Donc là, automatiquement, la question va se former dans ta tête. Laquelle? Hein? Pourquoi? Pour quelle raison eux et pas deux autres? Donc là, mes frères, il faut apprendre à réfléchir quand on lit le Coran et ne pas se contenter de lire sans essayer de comprendre. Pourquoi Allah Azza wa Jal il n'a cité que Samoud dans cette sourate? Ben, je vous dirai à la fin. Suspect. On revient à l'Ashqa. إذن بعث أشقاها. On a dit l'inbi'ath يفيد أمرين. L'inbi'ath c'est l'auto-envoi, le fait d'aller de soi-même. Ça, donc ça indique deux choses. Déjà que ce n'est pas quelque chose qu'on nous impose ou qu'on nous ordonne, on le fait de soi-même. Ikhtiyari. La deuxième, c'est la vitesse. Ça montre qu'on a fait ça vite et qu'on n'a pas pris son temps, réfléchi, hésité pour la faire. Et tu remarques que le mauvais qui s'apprête à faire une mauvaise action n'hésite pas et à l'accomplir le plus vite possible. Pourquoi? Pour ne pas qu'en cours de chemin, il change d'avis. Il va essayer d'accomplir son action le plus vite possible. Qu'il regrette ou non après l'avoir fait, il va le faire vite. Et les raisons sont nombreuses. En le faisant vite, il pense qu'il va y arriver plus rapidement. En le faisant vite, il pense qu'il va échapper au regard qu'il pourrait attraper pendant quelques mois cette action-là. En le faisant vite, il pense que personne ne va le devancer dans cette action-là. Et ainsi de suite. إِذِنْ بَعَثَ أَشْقَاهَا. Le mu'min, il fait les choses tranquillement. Il ne se précipite pas. Hein? Dans le hadith, العجلات من الشيطان. La précipitation provient du shaitan. Et là, dans le Coran, خلق الإنسان من عجل. L'être humain est créé de la précipitation. Donc la précipitation est en général reprochée. Même dans certains actes qui rentrent dans les adorations, comme le fait de se rendre à la mosquée. Le prophète nous a dit, alayhi salatu wassalam, alaykum bis sakina. Soyez serein et apaisé. Nathalie, tu regardes là-bas dans le parking, et comme ici le micro il porte et que les fenêtres sont ouvertes, on peut entendre à l'extérieur la voix. Alors quand tu arrives là-bas, t'es en voiture, t'entends l'iqama. Tu dis, oh! Alors tu mets un coup de fond de première, tu te retrouves vite fait bien fait dans le parking, t'as failli tuer un chat et deux passantes, tu te gares et tu cours vers la mosquée. T'arrives ici, t'entends un bruit de veste en cuir avec des clés et des je ne sais quoi, s'affaler sur le sol, et une respiration haletante qui va déranger tout le monde. Et toi, tu crois que tu as fait un bien, et tu as désobéi au prophète, alayhi salatu wassalam. Et tu as gêné tout le monde. Et tu as été dangereux dehors. Tu as dit, alaykum bis sakina. فما أدركتم من الصلاة فصلوا وما فاتكم فأتموا.
Ce que vous attrapez dans la prière, alors priez-le avec le jama'a. Et ce que vous avez raté, complétez-le. Sinon, quand il s'agit d'être le premier à faire une action, du moins quand il s'agit de faire une action pieuse, eh bien oui, là, il faut se précipiter. Tant qu'il n'a pas été stipulé dans un texte l'aversion de se précipiter comme on l'a fait précédemment. Regarde Moussa alayhi salam, lorsqu'il vint au rendez-vous de son Seigneur, il a dépassé son peuple. Il est arrivé avant eux. Et Allah lui dit: وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَهُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى. Allah lui dit: qu'est-ce qui t'a fait te précipiter, ô Moussa? Allah lui répond: ils sont derrière moi. Moussa il lui répond, barakallahu fik, Moussa il lui répond: ils sont derrière moi sur ma trace et je me suis précipité, ya Allah, pour que tu sois satisfait. Et regarde quand Allah Ta'ala il dit: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Et précipitez-vous, dépêchez-vous vers le pardon de votre Seigneur et un paradis dont la largeur est équivalente à celle des cieux de la terre, qui a été préparé pour les pieux. Notre verset: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. Devancez-vous, faites la course, سابقوا, vers le pardon de votre Seigneur et un paradis qui est large comme le ciel et la terre. Et quand il s'agit des affaires de ce bas monde, Allah Ta'ala il dit: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. C'est lui qui a fait pour vous de la terre une humiliée. Il l'a humiliée sous vos pieds, comme on l'a vu hier. فَمْشُوا فِي مَنَا كِبِهَا. Marchez dans ses sentiers. وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ. Et mangez de sa subsistance. Il a dit marchez. Il n'a pas dit précipitez-vous. مَسْأَلَ. C'est l'Iqama. Iqamatu s-salah. يَتَسْوِيَتُ s-sufu. Donc les rangs sont formé. Et il y a toujours une place qui apparaît devant toi. Alors, t'as un train à côté de toi, et c'est à base de Sadallahi. Non, Sadallahi. Non, vas-y, je t'en prie. Non, je t'assure, vas-y, toi. On fait quoi dans ces cas-là? Est-ce qu'on fait le Sadal? Ou bien est-ce qu'on fait le Nafsi-Nafsi? Hein? Le Nafsi-Nafsi. À ce moment-là, il n'y a pas de Sadal. Ou bien tu fais. Ça vous, je sais pas si ça vous fait rire, mais c'est ce qu'on fait avec les petits là-bas. Genre, on fait comme ça. Et lui, il se retourne, il regarde. Après, tu regardes ton doigt, tu vois. Je sais pas si vous avez pas compris. Al-Mohim, lui, toi, tu montres ton doigt comme si tu lui montrais quelque chose. Mais en fait, tu regardes ton doigt. Et lui, il se retourne pour regarder derrière. Et en fait, toi, tu passes dans le trou, devant, dans le rang. Al-Mohim, ça veut pas dire, en fait, des ruses pour, mais foncez. Foncez. Et si jamais dans cela vous craignez une fitna, des fois malheureusement avec des gens, notamment les gens âgés, ça passe pas. C'est déjà arrivé malheureusement, des frères, ils ont lu le kalam des ulama là-dessus, et ils ont dit: ça y est, c'est fini, nafsi, je te pousse, je m'en fiche, moi je passe. Et ça fait des problèmes. On a nos shivani qu'on aime énormément, qui malheureusement ne comprennent pas la chose, alors il faut faire preuve de hikmah, et inshallah, man taraka shay'an lillahi, awadahu Allah khayran mimma taraka. Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah Azza wa Jalla le remplace par une chose meilleure que ce qu'il a délaissé. Donc si tu sais que ça va faire problème, khayr inshallah. Maintenant si tu sais que il n'y a pas de problème, fonce. On revient à Ashqaha. Ashqaha, le damir dans Ashqaha, le pronom qui est muttasil, qui est lié au nom. Ashqaha, donc le pire d'entre eux. Le ha ici il revient à quoi? Est-ce qu'il revient à Samoud, qui a été cité dans le verset précédent, ou bien est-ce qu'il revient à autre chose? Al-Jawab, il revient à autre chose. À quoi? Il revient à toutes les communautés qui ont précédé Samoud.
أشقاها يعني أشقى الأمم المكذبة قبله. Le pire des communautés qui ont traité de mensonges leur message, qui ont traité de menteurs leur messager avant cela. Vous allez me dire, qu'est-ce que dalil? Dalil hadith. أورده الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أتدري من أشقى الأولين؟ فقال علي رضي الله عنه الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم عاقر الناقة. لبوت لدي عليه الصلاة والسلام علي sais-tu qui est le pire des premiers? Alors Ali radiallahu anhu, il a répondu, Allah et son messager savent mieux. Il a répondu, celui qui a tué la chamelle. Et on reviendra à ce hadith parce qu'il n'est pas fini, après. Ashqa hada, lam yarid nassun sahihun sarihun yukhbiruna bismi. Il n'y a pas de texte authentique, clair, qui nous est parvenu, dans lequel on avait l'information du nom de cette personne-là. Cependant, Ibn Jarir al-Tabari, rahmatullahi alayhi, rapporte de nombreuses paroles, on va l'arriver, de nombreux compagnons et prédécesseurs qui ont été cherchés dans les écrits, notamment israélites, et qui ont donc trouvé des noms qui ont été attribués à cette personne. Donc il y en a qui disent qu'il s'appelle Qidar ibn Salif. Qidar ibn Salif. D'autres qui disent Uhaymir Thamud. Ce sont les noms qui reviennent en général dans Kutub al-Tafsir. La najzim biha. Nous ne disons pas catégoriquement que ce sont leurs noms. Comme ceux qui disent que les deux fils de Adam, c'est Habil et Qabil. Kadalik. Il n'y a pas de dalil là-dessus. Ça vient des Israéliens. Et Allah, le prophète donne le hadith, alayhi sallatou wassalam, wa hadithu an bani Israël, voilà. Haraj est rapporté d'après Banu Israël sans qu'il y ait en cela un mal. Et la Qaïda a dit que les textes israélites, s'ils sont en contradiction avec les textes du Coran et de la Sunna, ils sont à rejeter sans réfléchir. S'ils sont en accord, donc on mettra en avant le Coran et la Sunna, jusqu'à un accord. Maintenant, s'ils ne contredisent pas ou s'ils ne sont pas en accord, on peut les citer sans dire que c'est réellement ce que ça c'est vraiment, que c'est réellement comme ça. Idan, qalu Qidar ibn Salif ou Uhaymir Thamud. Cette personne-là était quelqu'un de noble et respecté au milieu de Thamud. Et il faisait partie des 9 brigands qui avaient comploté la veille pour tenter d'assassiner Saleh. Comme Allah Azza wa Jal nous raconte cela dans Surat An-Naml, حيث قال وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون كذا إن شاء الله كذا طيب يكون احفظوا القرآن ما لكم لا تحفظون كتاب الله ألا تريدون أن تكون درجتكم في الجنة هي الأعلى ألا تريدون أن يكون فوق رؤوس آبائكم تاج الوقار احفظوا كلام الله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ألا تريد أن تكون الآيات البينات في صدرك أينكم من حفظ كتاب الله أيننا من حفظ كتاب الله mes frères apprenez le Coran qu'avez-vous à ne pas apprendre le Coran ne voulez-vous pas que votre degré au paradis soit le plus haut ne voulez-vous pas qu'il y ait sur la tête de vos pères le jour du jugement une couronne ne voulez-vous pas qu'il y ait dans vos poitrines la parole d'Allah. Je me sens seul quand je cherche un verset, je vous regarde avec désespoir. Un appel au secours et il n'y a personne pour me répondre. Ya ikhwani, mada fa'altum bi kitabillah? Mes frères, qu'avez-vous fait avec le livre d'Allah Azza wa Jalla? Est-ce qu'il n'a pas de valeur à vos yeux? Est-ce que vous préférez l'entendre que le réciter? Vous n'aimeriez pas que chaque fois que vous avez un moment de silence, que vous comblez ce silence avec le Coran que vous récitez avec vos lèvres et qui vient de votre cœur? Avez-vous oublié que pour chaque lettre vous avez dit Hasanat? Mes frères, réveillez-vous. C'est triste d'être dans une mosquée pleine de visages resplendissants tels que les vôtres et de ne pas trouver des gens qui connaissent le Coran. Wallahi, c'est triste. Si vraiment vous voulez suivre les deux prédécesseurs, retournez au livre qui nous raconte quelle importance est donnée au Coran. Retournez et vous verrez. Revenons à Ashqa al-Umam al-Ula. Revenons au premier, celui le pire des premières communautés. Dans le Coran, dans le Nam, Allah Ta'ala dit, il y avait dans cette ville-là 9 personnes qui semaient le désordre sur terre et ne voulaient faire aucun bien. Ils se sont réunis et ils ont dit, on va le tuer cette nuit, en parlant de Saleh. Et ensuite, on va jurer à sa famille que nous n'étions pas présents lorsqu'il a été tué. Et certes, nous faisons partie des véridiques. Ils ont fait un complot et Allah a rusé et ils ne se rendaient pas compte. فَدَمَّرْنَاهُمْ Et Allah, subhanahu, il les a détruits. Al-Mahim, celui-là, l'Ashqa, Al-Qawm, Qidar ibn Salif, ala hasabi marouya fismihi, faisait partie de ces 9 personnes-là et était quelqu'un de fort et de respecté, de noble dans sa tribu. Samoud, dans ses nombreuses particularités, ont demandé un signe à leur prophète. Vous allez me dire ça, toutes les communautés ont demandé des signes. Et bien Allah leur a donné un signe. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم أليم فيأخذكم عذاب أليم الله يجي إذا ثمود nous envoyons. Je rentre dans passé simple. C'est chaud. Nous envoyâmes leur frère Saleh. Il leur dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez aucune divinité en dehors de lui. Certes, les preuves évidentes vous sont venues de la part de votre Seigneur. Voici la chamelle d'Allah, un signe pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait sortir de la terre une chamelle. Il leur a fait sortir de la terre une chamelle. Ils l'ont vu avec leurs yeux. Une chamelle qui sort de la terre. Il leur a montré ce signe évident et il leur a donné un test. Il y avait un jour dans lequel cette chamelle devait être la seule à bénéficier de l'eau de laquelle il s'abreuvait. Yani Samoud. لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. Elle a une boisson et vous avez aussi votre boisson dans un jour connu. Ça veut dire qu'ils se partageaient l'utilisation de cette source dans les jours. Un jour pour elle, la chamelle, et un jour pour eux. Et les Moufassirines disent que lorsque la chamelle buvait, elle donnait du lait. Et c'est eux qui bénéficiaient du lait de la chamelle. Ça veut dire que même dans les jours où ils ne buvaient pas, ils avaient droit au lait de la chamelle. Qu'est-ce que tu veux de plus? Eh bien, malgré ça, ils se sont réunis et il leur a interdit « Wala tamassou habissou » Ne la touchez pas de façon mauvaise, ne la tuez pas. Sinon, vous serez touchés par un châtiment douloureux. Ne la tuez pas. Donc, 3 choses. Le signe évident devant eux. L'obligation de la laisser voir lorsque son jour arrive et l'interdiction de la tuer. Et bien malgré ça, ils étaient ensemble dans leur assise et en un, il a dit, c'est un menteur, c'est de la sorcellerie, ce n'est pas vrai. Qui c'est parmi nous qui pourrait aller la tuer? Alors Ashqal Qawm s'est levé, il a dit, moi j'y vais.
إذن بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله إليهم يعني صالح صالح qui était le messager d'Allah auprès de Samoud leur a dit ناقة الله وسقياها وناقة ناقة منصوب على التحذير كما قال العلماء والتقدير أحذركم ناقة الله وسقياها.
Petit إعراب, un peu de grammaire. ناقة avec la fatha, parce qu'il est un complément d'objet direct d'un verbe qui n'est pas présent dans la phrase mais qui est voulu. Je vous mets en garde contre le fait de t'approcher, de toucher la chamelle d'Allah et sa fontaine, yani sa source où elle se, où elle boit.
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه.
Regarde subhanallah. Reviens un peu en avant, en arrière.
كذبت ثمود بطغواها.
كذبت. طيب انت معي؟
Quelques versets.
فكذبوه. Donc là, le takzib il revient deux fois. Hein? Le fait de traiter de menteur ou de mensonge est revenu deux fois.
فكذبوه.
Le premier كذبت ثمود, ça concernait le caractère global de la mission prophétique de Salih. Et dans le deuxième فكذبوه, ça concernait le fait qu'ils allaient être touchés par un châtiment de la part d'Allah si jamais ils arrivaient ou si jamais ils venaient à tuer cette chamelle.
فكذبوه فعقروها عقروها avec واو الجمع.
Ils l'ont tué. والعقر في اللغة
هو جرح البعير في يديه حتى تبرك.
والآن لا تجرح لا يجرح البعير وإنما البعير وإنما تعقل يداها أو يدها اليسرى. العقر c'est une technique que les Arabes ont pour égorger le chameau. C'est-à-dire qu'ils lui blessaient une de ses pattes de l'avant pour qu'elle se cabre et afin de lui asséner un coup dans sa veine jugulaire pour que le sang sorte. Aujourd'hui, on fait plus, on n'assène plus ces blessures, mais on lui attache en général la patte gauche de l'avant.
فعقروها.
Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a waw al-jam'a. Il y a le waw du pluriel. Alors qu'on sait qu'il n'y en a qu'un qui l'a tué, cette chamelle. Hein? Donc on a expliqué qu'il n'y en avait qu'un qui l'a tué. Pourtant, Allah Azza wa Jalla asnad al-fi'l ila al-jami'. Il a attribué l'action à tout le monde. Pourquoi? Car ils étaient d'accord avec lui dans l'accomplissement de cet acte. Ils étaient d'accord avec lui dans l'accomplissement de cet acte. Ils ont donc tous endossé la responsabilité de ce crime. C'est pour ça qu'ils ont tous été touchés par le châtiment.
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم أي فأطبق عليهم.
الإطباق يعني الإغلاق والمعنى الاهلاك. الاطباق يعني ils furent coincés entre deux parties. Ça c'est le sens linguistique du mot damdama. Mais le sens ici c'est l'ihlak. Ils furent exterminés.
فدمدم عليهم ربهم,
leur seigneur les extermina,
بذنبهم,
par leur péché. Et هنا للسببية ايضا, elle indique la cause. Pour qu'on sache pourquoi Allah les a exterminés, et pour qu'on comprenne et qu'on sache qu'Allah subhanahu ne punit pas les gens sans raison. Fatawaha, yani il a aplati cette terre sur laquelle il se trouvait. Il n'y resta rien. Fatawaha, il a aplati cette terre sur laquelle il se trouvait. Et enfin, وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. Et il n'a pas craint sa finalité, la fin de ce qu'il a fait. Donc là, les savants ont divergé, selon trois paroles, sur le sujet qui n'a pas eu peur des conséquences de ses actes. Qui ? مِنْهُمْ مَنْ قَالْ عَاقِرُ النَّاقِ. Il y en a qui ont dit, c'est celui qui a tué la chamelle. D'autres qui ont dit, parce que pourquoi ? Il a été tué la chamelle sans se soucier des conséquences qui vont avoir lieu après cet acte-là. وَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا أَيْ عَاقِرُ النَّاقِ. Il a tué sans se soucier des conséquences de ce qui allait arriver. Il n'a pas eu peur. Deuxième parole, وَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا أَيْ صَالِحْ نَبِيُّهُمْ حَيْثُ لَمْ يُمَسَّ بِهَذَا الْعَذَابِ. Deuxièmement, deuxième possibilité, صالح, leur prophète, qui n'a pas été touché par le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Donc Allah subhanahu l'a épargné avec les croyants qui l'ont suivi. Donc Saleh n'a pas eu peur, ou du moins n'a pas eu à avoir peur, je ne sais pas si c'est français, mais on essaie quand même, de ce qu'il a commis comme action. Et enfin, dernière parole, Allah Azza wa Jal n'éprouve de peur envers personne lorsqu'il fait quelque chose. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. Et وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ قِرَاءَتَانِ إِحْدَاهُمَا بِالْوَاوَ وَالثَّانِيَةُ بِالْفَاءِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَّا. Dans ce verset, on a deux lectures différentes. On a وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا et on a فَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. Et le fa, si on prend la lecture du fa, تُفِيدُ التَّعْقِيبِ, elle montre la succession. Et comme c'est Allah Ta'ala qui les a exterminés, donc forcément c'est lui qui n'a pas à avoir peur de ce qui arrive après. وَهَذَا مَخْتَارَهُ إِبْنُ الْقَيِّمْ رَحِمَهُ اللَّهُ وَغَيْرُهُ. C'est-à-dire qu'il a été choisi par Ibn al-Qayyim, رَحِمَهُ اللَّهُ, ainsi qu'Al-Qurtubi, lorsqu'on prend la lecture avec le fa. Elle n'indique pas autre chose. Si on dirait que ce serait le tueur de la chamelle ou bien le prophète Saleh, ce serait lointain en termes de placement dans la sourate et aussi en termes de compréhension. Donc, فَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا. Allah Ta'ala, il n'a peur de rien ni de personne. La peur est un défaut et Allah Ta'ala, il est pur et sanctifié et il ne possède aucun défaut. Et la peur contient un manque dans trois choses. La peur contient un manque dans la science, le fait de connaître. Car n'est apeuré qu'il ignorant. Et Allah subhanahu connaît toutes choses. La peur implique un manquement dans le pouvoir, fil qudra. Car c'est l'incapable qui a peur des répercussions. Car il n'est pas capable de se défendre lui-même ou de repousser le mal, alors il éprouve de la peur. Et Allah subhanahu, il est capable de tout. Et troisièmement, la peur implique un manquement dans la volonté. Car celui qui n'a pas une volonté ferme, ou bien celui qui a une volonté mais qui n'a pas les moyens de la mettre en pratique, est touché par la peur. Et Allah Azza wa Jal, tout ce qui arrive dans la création n'est que le fruit de sa volonté. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Et vous ne voudrez que si Allah Ta'ala le veut. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا ولكن الله يفعل ما يريد. Et si Allah l'avait voulu, il ne se serait pas combattu, mais Allah Ta'ala fait ce qu'il veut. فعال لما يريد. Celui qui fait ce qu'il veut. Donc si on prend la qira'a de fa, لا يخاف, يعني Allah لا يخاف عقباه. Allah ne craint rien ni personne, et lorsqu'il fait une chose, لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Et lorsqu'Allah il fait quelque chose, on n'interroge pas sur ce qu'il fait. Mais ce seront les gens qui seront interrogés sur ce qu'ils ont fait. Et là, On rappelle à nos frères et à nos sœurs qui sont perturbés par l'iman bil-qada wal-qada. Il y a beaucoup de gens qui viennent te voir, j'ai pas compris, Akhi, on nous a dit qu'Allah il connaissait tout, et Allah il a tout écrit, et... mais pourquoi alors? Et Akhi, d'où tu poses des questions sur Allah, toi? Allah on n'interroge pas sur ce qu'il fait. As-salaf rahmatullahi alayhi me disait, inna al-qadara sirrullah, fala tabhasu anha. La prédestinée et le décret divin, c'est le secret d'Allah. Ne cherchez pas après. Ne cherchez pas après. T'as pas marqué dans les six piliers de la foi, c'est le dernier. Et que cet ordre dans ces six piliers n'a pas été mis de façon innocente. S'il a été mis en dernier, c'est parce que c'est dans la pratique et la maîtrise et la compréhension des cinq premiers que tu auras une maîtrise correcte et une pratique bonne et une compréhension droite du dernier. Comment toi tu viens et tu demandes à Allah pourquoi il a fait ci, pourquoi Allah il a fait ça? C'est un manque de respect sans pareil. Et cherche chez les deux prédécesseurs, chez les compagnons radiallahu anhum qui avaient avec eux le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était leur intermédiaire entre eux, pour intermédiaire pour Allah Azza wa Jal, pour qu'Allah Ta'ala leur réponde, ils passaient par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien de fois ils ont posé des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah il leur répondait par la révélation. يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الأنفال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك يسألونك. Et Allah il répond dans le Coran. Pourquoi ils n'ont pas demandé alors? تأدبا مع ربهم جل وعلا. Parce qu'ils avaient le comportement avec leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et lorsque cet homme il est rentré dans la mosquée, il a vu l'imam Malik rahimahullah en train de donner son cours. Il a dit, ya imam, الرحمن على العرش استوى كيف استوى فتأطأ رأسه وتصببت جبهته عرق وألزم الصمت. Lorsque l'homme il a dit, ya imam, Allah a encore dit, الرحمن على العرش استوى, le tout miséricordieux qui s'est établi sur le trône, comment s'est-il établi? Imam Malik rahmoullah, il a entendu cette parole, son sang il a fait un tour, il a baissé la tête, il a commencé à suer et il est resté silencieux un moment. Comment moi, on me demande comment Allah il fait les choses? Comment moi, être humain insignifiant, on me demande comment Allah il fait les choses? Il a respiré, il a repris son souffle, il a repris son calme, il a dit Al-istiwa ma'loum wal-kayf majhoul. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعة فأمر به فأخرج من المسجد. Il a dit, l'élévation d'Allah au-dessus de son trône est connue dans le Coran. Et comment ceci s'est passé, c'est ignoré. On ne le sait pas. Allah n'en a pas parlé dans le Coran. Et y croire, c'est obligatoire. Et demander après, c'est une innovation. Pourquoi? Parce que les sahaba, radiyallahu anhum, qui connaissent Allah Ta'ala mieux que toi, et qui sont plus assidus et acharnés à connaître Allah Ta'ala que toi, n'ont pas demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cette question. Alors le fait de le demander, c'est une bid'a. C'est une innovation. Et il a dit ensuite, et je ne vois en toi qu'un innovateur. Et il a ordonné à ce qu'on le chasse de la mosquée, et il fut chassé de la mosquée. Des gens comme ça, on n'en veut pas dans nos mosquées. C'est ces gens-là qui pervertissent les raisons saines des musulmans. C'est ces gens-là qui pervertissent et salissent la pure croyance des musulmans. C'est eux qui sont la cause de la fitna et de la division. Ceux qui n'ont pas de respect envers Allah Azza wa Jal et qui n'ont pas le comportement à voir avec Allah Azza wa Jal et qui croient connaître mieux que les compagnons eux-mêmes, radiallahu anhu. ولا يخاف عقباها. Si on prend le waw, les trois paroles citées par les savants sont acceptées dedans. Je finis, j'ai bientôt fini. Quel est le temps, il me regarde de travers. Donc, là on revient à la question qu'on a donnée tout à l'heure. Non, je peux pas finir tout de suite. Trop bien. Moi, je kiffe. En tout cas, vous kiffez, je sais pas. Taï. On revient et on comprend que les koufars, ils disent, ouais, on veut des signes. Il est où ton Dieu? On le voit pas. Si il est si grand, pourquoi on le voit pas? Tous les koufars sont unanimes, quelle que soit leur communauté, sur le fait de demander à leur prophète un signe. Et Allah Azza wa Jal, il donne des signes. Il leur montre des signes. Soit en faisant appel à leur réflexion et à leur attention, soit en leur montrant, comme ça, comme cette chamelle qui est sortie de la terre. Et quelle est la conclusion? Ils persistent dans leur mécréance et refusent de suivre la guidée. Allah dit dans le Coran: وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Allah dit dans le Coran: et qu'est-ce qui nous a empêché de donner des signes évidents, si ce n'est le mensonge des communautés précédentes? Et nous avons donné à Samoud la chamelle comme signe clair et évident. Et ils furent injustes. Et nous ne faisons de nos signes que des moyens de faire peur à nos serviteurs. Là, les gens n'ont pas peur. Wa nukhawwifuhum, dans notre verset, fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Et nous tentons de leur faire peur, ça ne fait que leur rajouter de la rébellion et de la transgression. Regarde, Quraysh, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un signe. Ils ont dit: Ya Allah, tu prétends que ton Seigneur est capable de tout, alors demande-lui de nous transformer la montagne de Safa en or. Et si tu le fais, nous croirons en toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était, dont le seul souci était que son peuple croit en lui. Pas pour qu'il ait pas pour qu'il ait ce sentiment d'avoir réussi sa mission, non. Mais pour que eux soient sauvés du châtiment. C'était son souci. C'était ce qui le préoccupait. Allah dans le Coran, comme une fois, il l'a rappelé. Il lui a dit: فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ. Hein? وَيَذِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ إِلَى آخِرِهِ. Le prophète, il était touché par cette négation de la part de son peuple. Alors quand il les a entendus dire que si Allah il transformait la montagne de Safa en or, ils croiront, alors il a invoqué Allah, il a dit: Ya Allah, transforme la montagne de Safa en or. Et Allah il envoie Jibril alayhi salam. Et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: si tu veux, nous transformons cette montagne en or et nous n'accorderons aucune miséricorde à celui qui délaissera, qui persistera dans la mécréance malgré ce signe évident. Si tu veux, on laisse la montagne telle qu'elle est et on laisse la porte de la Taouba ouverte pour que celui qui veuille se repentir après cela puisse se repentir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi, bien entendu, la seconde solution. Parce qu'il a eu peur que son peuple voit ce signe évident et qu'il refuse encore de croire. Et Allah Ta'ala, pour lui rappeler cela, il lui rappelle les peuples qui lui ont précédé et qui ont demandé des signes et qui ont eu des signes et qui ont refusé de croire. Et enfin, on conclut, mes frères, sur la question qu'on a posée tout à l'heure. Pourquoi Samoud, ce peuple, est le seul qui a, entre guillemets, bénéficié d'une mention particulière dans une seule sourate, contrairement au reste des communautés? Ibn Taymiyyah rahimahullah dit que c'est pour nous montrer le châtiment du moins pire. Je sais que pire, c'est un superlatif qui ne peut pas être précédé par un moins ou par un plus, mais c'est pour faire comprendre. Du moins pire. Moins pire par rapport à quoi, vous allez me dire? Moins pire par rapport aux autres communautés. C'est-à-dire, Regarde dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, il parle de nombreux peuples. Il parle de Ad, le peuple de Hud, c'est pour ceux qui suivent. Il parle de Samoud, le peuple de Salih. Il parle de Madian, le peuple de Shu'aïb. Et il parle de Mu'tafikat, le peuple de... Non, Tahtan, tu n'as pas le rangé, toi. J'ai fait exprès dire Mu'tafikat. Le Qawm ou l'autre, le peuple de l'autre. Alayhim as-salam ajmaïn. Et il nous, Allah subhanahu wa ta'ala, nous explique comment il les a chassés. Et il nous explique les particularités de chacun de ces peuples-là. Ad, قال تعالى, فأما عاد فاستكبروا في الأرض إيش؟ Non, c'est pas ça. Il y a beaucoup, je vais m'en rappeler, Inch'Allah. Enfin, quand j'aurai vu mes notes. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. الآية. Quant à Ad, ils se sont enorgueillis sur terre. Et ils ont semé le trouble. Et ont dit, qui est plus fort que nous? Ils avaient, en dehors du shirk, toujours ne pas oublier que le principal élément qui justifie l'envoi des messagers à ces peuples, c'est le shirk. Plus des péchés avec. Ad, ils avaient tajabbur, wa takabbur, wa tawassu'u fi dunya wa shiddatul batsh. التجبر la tyrannie, التكبر l'orgueil, التوسعوا في الدنيا نعم في الدنيا, ils étaient à l'aise, ils faisaient preuve de largesse, c'est-à-dire ils étaient à l'abri du besoin. والشدة في البطش, ils étaient immensément forts. Et comme ils étaient forts, ils pensaient que personne ne pouvait les battre. Alors je dis من أشد منا قوة, qui est plus fort que nous? Comment Allah les a punis? فارسلنا عليهم ريحا صرصرا. Il leur a envoyé un vent terrible, تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ, qui jette les gens en l'air comme si c'était des vieux troncs de palmiers. Ils se croyaient forts. Allah, il les a détruits avec le vent. Tu peux toucher le vent? Tu peux voir le vent? Là. Eux, ils pensaient que tout était inférieur à eux. Allah, il les a détruits avec une chose qui est invisible et impalpable. Deuxièmement, Lot, et sachez que le peuple de Lot est celui qui a été châtié de la façon la plus particulière dans toutes les communautés. Lot, comme vous le savez, après le shirk, ont commis une turpitude dans laquelle ils n'ont jamais été devancés auparavant. Ils copulaient avec les hommes en dehors des femmes. Alors Allah Azza wa Jal, comment il les a punis? Il a pris leur terre, bien sûr, c'est les anges qui ont exécuté son ordre, leur terre, qu'il a fait lever dans le ciel, pour la retourner, pour l'écraser sur terre, et la finir avec une pluie de pierres. Agis. Agis. Pourquoi? Les élever, les retourner, et les aplatir. Déjà, premièrement, un châtiment particulier parce qu'ils ont fait quelque chose de particulier. Un châtiment énorme car ils ont fait un péché énorme. Ils furent élevés et retournés de la même façon qu'Allah il a élevé leur nature de façon saine à ce que l'homme il se dirige vers la femme, et il les a retournés comme ils ont inversé leur nature en se dirigeant vers les hommes. Madian, le peuple de Shu'aïb, après le shirk, était injuste dans la pesée des marchandises et exagéré dans leurs biens. Alors Allah Ta'ala les a punis avec le feu en brûlant tout ce qu'ils possédaient. Cette chose-là qui les a fait rentrer dans l'injustice. Samoud, comment Allah les a exterminés? Sayha. Sayha, il y a un cri. Un seul cri, ils sont morts d'un coup. Un cri, et ils meurent instantanément. Pourquoi? Parce qu'avec le shirk, le péché qu'ils ont fait, c'est tuer la chamelle. Donc là, Allah, il nous montre que si ça, c'est le, la conséquence, c'est le châtiment de celui qui fait le moins, que dire de celui qui fait encore pire que cela? Et Ibn Qayyim rahimahullah, il rapporte une autre raison à cela, c'est que Samoud, ils ont eu un signe qu'ils n'ont pas pu interpréter différemment, qu'ils n'ont pas pu renier comme quoi ils venaient d'Allah Azza wa Jal. Une chamelle qui sort de la terre, est-ce que c'est commun? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent? Là, ils ont une aya bayyina, un signe clair, mustabsirin, comme Allah dit dans le Coran. Regarde, quand on retourne dans surat Fussilat, فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. Allah, il évoque pour Ad de nombreuses causes. Quand il passe à Samoud, وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. Quant à Samoud, nous les avons guidés. Nous leur avons montré le chemin de la droiture. Ils ont préféré la cécité sur la clairvoyance. Ils ont préféré fermer les yeux de leur cœur sur le fait de suivre les signes d'Allah Azza wa Jal. Comme ils ont eu un signe particulier, ils ont eu une mention particulière dans le Coran. هذا والله أعلى وأعلم. Excusez-moi d'avoir pris un peu trop de temps. Je ne dis pas que c'est l'heure du Maghrib. Donc, هذا فيما يتعلق بتفسير وتعليق بسيط في هذه السورة المباركة. C'est, on a fait le tour de la sourate. On a commenté, expliqué comme on le pouvait. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous permettre de méditer son livre et de comprendre le sens de ces versets. Et wallahi mes frères, le Coran, c'est par lui que la Ummah peut lever la tête. C'est avec le Coran et en revenant à lui que on sort des ténèbres pour aller vers la lumière. Cette Ummah ne se trouve dans l'état où elle est aujourd'hui que parce qu'elle a délaissé le Coran. Alors il faut retourner au Coran. Et si on lit le Coran correctement, et qu'on multiplie les vocations du Coran avec nos langues, et qu'on remplisse nos moments de silence par la récitation du Coran, si on médite sur le sens des versets, si on adore Allah subhanahu wa ta'ala avec sa parole, eh ben, wallahi, c'est le chemin de la victoire. C'est le chemin de la victoire. Et bien entendu, le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam va avec cela d'emblée. Car dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de suivre le prophète alayhi salatu wa salam. Alors mes frères, que nous tous, on renouvelle notre contrat avec le Coran. Qu'on arrête de lui donner un CDD tous les ramadans, pour que lorsque le jour de l'Eid il arrive, son contrat il finisse. Il faut lire le Coran tous les jours. Le réciter le plus possible. Tenter de le comprendre. Et le mettre en pratique. L'apprendre et l'enseigner. On deviendra les meilleurs des gens. خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. Et consacrer au Coran une étude pour le comprendre. Comment le comprendre? Comment s'en délecter si on ne le comprend pas? Ibn Jarir rahimahullah al-Tabari disait: je m'étonne de gens qui prétendent se délecter, éprouver du plaisir à lire le Coran alors qu'ils n'en comprennent rien. Ajibad. C'est comme si je t'enlève le sens du goût, je te ramène un plat, tu le manges, tu n'éprouves aucun goût, et tu me dis c'est bon. Ah, j'ai mal. Soit tu es un bon mytho, soit tu n'as pas compris. Donc mes frères, wallah, il faut qu'on se dise qu'on passe à côté d'un trésor inestimable. Yarhamukallah. On passe à côté d'un trésor inestimable en lisant le Coran sans le comprendre. Et des savants ont fait cet énorme travail de nous l'expliquer et de nous en sortir ce qu'ils y ont trouvé comme trésor. Parce que comme il disait dans la parole, la tanqadi ajaibuh. Ces merveilles ne cessent jamais. C'est pour ça que le Coran, c'est le miracle éternel d'Allah Azza wa Jal. Parce que plus on le lit, et moins on s'en lasse. Une chose, plus tu l'as fait, et plus tu t'en lasses. Le Coran, c'est le contraire. Plus tu le lis, et plus tu veux le lire, et moins tu t'en lasses. Donc on renouvelle chacun ici notre pacte avec le Coran, et qu'on en fasse notre compagnon de la vie. Regarde, subhanallah, t'as vu dans les chrétiens, mathalan, qui ont toujours, dans leur chevet, dans leur tiroir, ils ouvrent, hop, une Bible avant de dormir, ils lisent quelques pages. Qu'est-ce? Le chrétien qui est complètement à l'opposé de ce qu'il doit être, il consacre tous les jours une petite lecture dans la Bible. Ce livre qui a été falsifié et traduit des milliards de fois et qui a été changé et transformé, il s'y accroche. Et même lui, il n'y croit pas. Il sait très bien que c'est bizarre. Et toi, le Coran, la parole d'Allah, cette parole dans laquelle tu ne dois avoir aucun doute que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Aucun. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Voici le livre. Il n'y a aucun doute en cela. Le livre. La parole d'Allah Jalla wa Ala. Lis-le et étudie-le, apprends-le, enseigne-le et mets-le en pratique. Et wallahi, tu gagneras ici-bas et dans l'au-delà. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa al-zikr al-hakim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa barakallahu fiik.